Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, les alchimistes sont de retour, suite et pas fin. Et oui, on poursuit ce matin notre voyage au cœur d'une discipline obscure qui se développe loin des regards du grand public, mais qui se porte très bien, merci. J'ai nommé la biologie de synthèse. On en parle tout d'abord avec Céline Lafontaine, une sociologue, professeure agrégée de l'Université de Montréal. Céline Lafontaine, je pense que ça va être l'interview la plus inconfortable de votre existence. En fait, on n'avait pas vraiment le choix, vous êtes canadienne de passage en France. On a fait connaissance dans un colloque extrêmement dense à Grenoble où il n'y avait pratiquement pas de temps pour se rencontrer en dehors. Donc voilà, on fait cette interview dans le train et donc voilà, on a un petit bruit de fond qui va nous accompagner. Alors la raison pour laquelle ça me paraissait important de vous interviewer, c'est que vous êtes socio-anthropologue et que vous travaillez depuis peu de temps sur un sujet dont on a très peu parlé en France. On l'a évoqué, nous, dans Terre à Terre, à deux reprises déjà, mais c'est un sujet qui a été très peu abordé, c'est celui de la financiarisation du vivant. Comment est-ce que vous êtes arrivée à vous intéresser à cette question ?
Moi, je me sens intéressée à cette question par le biais d'un travail sur les nouvelles technologies biomédicales, mais j'ai travaillé par ailleurs sur les nanotechnologies et l'économie de la promesse, et c'est vraiment...
De la promesse?
Oui, c'est comme ça qu'on appelle l'économie de la promesse, c'est toute cette économie des technosciences qui repose sur un fort discours spéculatif, sur une capitalisation de la recherche, notamment par le brevetage, mais qui finalement demeure à l'état de la promesse, justement. On est loin des réalisations. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai travaillé dans un livre qui s'appelle « La société post-mortelle », notamment sur la question du vieillissement qui est au cœur de cette économie-là, qui est au cœur de la financiarisation du vivant, parce que le vieillissement de la population, évidemment, en Occident, a été conceptualisé comme une logique de décroissance. Et la Banque mondiale, déjà en 1996, parlait de la décroissance liée au vieillissement de la population. Et pour combattre ce vieillissement de la population, les dangers liés à cette décroissance, dégénérescence, il fallait investir massivement dans la recherche biomédicale, notamment les fameuses cellules souches, la biomédecine, toutes les nouvelles technologies médicales liées au génie génétique, dans le but de prolonger la vie et d'inverser les processus de vieillissement. Donc, c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressée à cette question-là. Par ailleurs, j'ai commencé un travail justement sur la médecine régénérative qui est au cœur de cette économie-là, parce qu'il y a les cellules souches et parce qu'il y a vraiment la mise en place d'une spéculation autour des cellules souches, mais aussi toute une économie internationale où les ovules prennent une double valeur, la valeur reproductive à travers les nouvelles technologies de reproduction et la valeur régénérative pour la médecine régénérative. Et là, il y a vraiment des enjeux économiques majeurs et on est dans le premier modèle vraiment de la globalisation puisque ce sont les cellules des femmes indiennes, notamment parce qu'il y a toute une économie de l'ovule, des femmes indiennes qui vont bénéficier à la fois des parents occidentaux qui sont dans un désir d'enfant et aussi dans l'économie des cellules souches. Donc, il y a tout un modèle là. Et très récemment, en 2009, l'OCDE a développé un programme qui s'appelle la bioéconomie Horizon 2030, où là, vraiment, ça devient l'enjeu d'un redéploiement de l'économie en faveur, justement, de la bioéconomie. Là, ce qui est intéressant, c'est que, bien que par ailleurs, on s'apercevait de l'importance pour le développement de la biomédecine, c'est l'ensemble de toutes les catégories industrielles qui ont été repensées en termes de bioéconomie.
Alors, il y a déjà plusieurs notions qu'il faudrait expliquer, Céline Lafontaine. Vous avez parlé tout à l'heure de décroissance en évoquant ce rapport de la Banque mondiale de 1993. En France, la décroissance, c'est un mouvement d'objecteurs à la croissance. Donc, ça n'est pas de cette décroissance-là que vous parlez. Et puis, ce terme de bioéconomie que vous employez, il n'est pas si fréquent non plus. Alors, de quoi est-ce que vous parlez là?
C'est-à-dire que la Banque mondiale voyait justement le vieillissement de la population comme un facteur de décroissance. La Banque mondiale, elle est toujours dans cette logique de développement. Donc, c'était dans une visée vraiment négative. Il s'agissait de lutter contre la décroissance économique. Et là, l'investissement dans les biotechnologies, dans la médecine anti-âge, dans la médecine régénérative, c'était la voie contre la décroissance. Par ailleurs, le concept de bioéconomie s'est apparu en 2009 dans un rapport de l'OCDE qui s'intitule la bioéconomie Horizon 2030, où l'ensemble des secteurs économiques sont repensés à travers ce qu'on appelle la bioéconomie. La bioéconomie, c'est finalement les processus vivants qui sont la source de la richesse. Ce n'est plus l'énergie fossile qui va être au fondement de la nouvelle civilisation, mais les processus vivants en tant que tels. Donc, c'est les biocarburants, c'est les nouveaux biomatériaux, c'est vraiment toute l'économie qui est repensée avec ce fondement du vivant.
Les biotechnologies?
Les biotechnologies dans toutes les formes. Toutes les formes de biotechnologie, les nanotechnologies, toutes les technologies qui ont au cœur la biologie synthétique, elle est au cœur de ce nouveau programme de l'OCDE.
La biologie synthétique?
Oui, elle est au cœur de ce... Elle est vue comme un des moteurs de cette nouvelle économie. Ce qui est intéressant, c'est que ce concept de bioéconomie qui apparaît en 2009 dans le cadre de l'OCDE, donc dans le cadre du développement capitalisme, c'est un détournement du concept de bioéconomie qui, lui, avait été conceptualisé au tournant des années 70 par Nicolas Georgescu-Rogan, qui allait dans un sens complètement inverse, qui était celui justement de la décroissance, de la prise en compte des limites du monde industriel et de l'obligation de tenir compte justement de la logique d'entropie.
L'entropie étant?
L'entropie, c'est, dans le cadre de la société industrielle, c'est la mort thermique de l'univers ou la disparition complète de l'univers sous le fait de l'épuisement des ressources dans le cadre de la thermodynamique industrielle et dans le cadre de la conception informationnelle du monde, c'est l'arrêt des échanges, l'arrêt des communications, c'est-à-dire la mort de l'univers. Et ça, c'est très important parce que historiquement, on s'aperçoit que la première thermodynamique, c'est-à-dire celle à l'origine de la révolution industrielle, qui était la transformation du vivant par la force de travail, le travail est pensé comme source d'énergie, source de chaleur. Là-dessus aussi, on va tout réinterpréter en termes de source de chaleur comme fondement de l'énergie. La machine à vapeur, c'est ça. Le travail égale la chaleur, égale la puissance de la machine industriel. À partir des années 50, cet horizon-là a été reconceptualisé dans une perspective probabiliste où on a abandonné la notion d'énergie et c'était la notion d'information qui est devenue le centre, la notion d'information qui donnait l'illusion de sortir de cette espèce de gaspillage énergétique. On s'aperçoit aujourd'hui que c'était une illusion, justement, parce que la société informationnelle, elle repose sur le pétrole, sur ce macro-système technique. Et donc, la bioéconomie, elle apparaît dans les années 70, avec la crise du pétrole, avec le rapport du Club de Rome qui avertit justement, qui commence à avertir les autorités économiques des dangers de l'épuisement de l'énergie fossile et de la nécessité de repenser les bases de l'économie internationale du développement. Et c'est dans ce contexte-là que Rogan va repenser justement la bioéconomie comme dans une logique de décroissance. Il y a eu un détournement historique qui s'est passé à cette époque-là parce que les concepts de Rogan ont été entendus, ont été pris en compte, mais en voyant le vivant comme la nouvelle source d'énergie. Donc, ce n'est pas le vivant comme force de travail à travers le corps, c'est vraiment le vivant décomposé qui devient cette source d'énergie.
Source d'énergie, source de richesse.
Source d'énergie, source de richesse. Il y a une anthropologue australienne qui s'appelle Melinda Cooper qui a travaillé sur ces questions-là. Elle parle de life as surplus, la vie comme plus-value. Donc, il y a vraiment une transformation de la conceptualisation économique où c'est le vivant qui devient la source de l'énergie. Et ça a correspondu dans les années 70 à l'investissement massif dans l'économie informationnelle, dans les biotechnologies, dans la pharmaceutique, évidemment dans l'agriculture intensive industrielle. Ça s'est mis en place à cette époque-là, dans cette idée que finalement, la vie est le processus qui va nous permettre de combattre l'entropie puisque c'est une énergie renouvelable et c'est une énergie qui s'épuisera jamais. Il faut dire aussi que les fondements de la biologie moléculaire sur lequel reposent les biotechnologies, conçoivent le vivant comme processus négantropique, comme ce qui nous permet de combattre la tendance naturelle à l'épuisement de l'énergie.
Ce qui est fascinant, Céline Lafontaine, c'est qu'on pourrait y associer des images pratiquement de contes à ce que vous êtes en train de nous dire. J'avais là l'image d'un ogre en train de dévorer les humains, de cette énorme machine, le macro-système technique dont parle Alain Gras, après avoir dévoré les ressources de la Terre, de dévorer les hommes.
Oui, c'est exactement, personnellement, ce que le nouveau travail que j'entreprends autour de cette notion de bioéconomie s'inscrit justement dans cette question-là, parce que c'est le corps, non plus comme force de travail qui est exploitée, mais c'est le corps comme processus vital. Et donc, c'est le corps décomposé, c'est le sang, ce sont les cellules souches. Donc, c'est vraiment la force énergétique du corps, mais détachée de toute subjectivité. Et c'est la base maintenant de cette nouvelle bioéconomie. Et là, il y a toute une façon de repenser le corps, repenser l'individualité. Il y a un vrai renversement, parce que le corps a toujours été au centre comme source d'énergie, mais là, c'est un corps qui est plus subjectivé du tout, qui est même plus la force de travail.
Alors, cette bioéconomie, sur quel fondement économique est-ce qu'elle s'appuie? Parce qu'on a tellement l'impression d'arriver là dans un roman d'anticipation de science-fiction imaginé par un esprit délirant, mais en fait, il y a déjà une économie de tout cela.
Et oui, parce que finalement, les biotechnologies, elles sont quand même déjà au cœur du capitalisme international. Les nanotechnologies sont incluses, celles qui touchent au vivant. Et donc, c'est vraiment central. C'est aussi le fait que ça se présente comme l'économie verte par excellence. La bioéconomie veut une réponse à l'épuisement du pétrole, à la pollution. Un des axes majeurs, c'est justement les biocarburants qui visent à remplacer le pétrole par le maïs, le colza. Et donc, là, il y a vraiment un enjeu important qu'on voit moins. Parce que finalement, c'est déjà en place depuis plusieurs années. Les OGM s'inscrivent directement dans cette bioéconomie. Ce qu'on voit moins et ce qui devient plus important, c'est toute la question du biomédical qui s'inscrit dans cette économie. Pourquoi? Parce que le vieillissement des populations du Nord devient l'obsession des pouvoirs politiques avec cette santé parfaite et avec cette volonté d'allonger indéfiniment la vie.
J'aimerais que vous nous donniez quelques exemples, en fait, Céline Lafontaine, puisque vous avez évoqué les biocarburants, les OGM, mais qui sont des plantes, mais quelques exemples des manières d'utiliser, d'exploiter le corps désincarné.
Une des manières, une des nouvelles manières d'exploiter le corps, c'est notamment à travers les biobanques. D'ailleurs, on parle de biobanques, c'est très intéressant parce que quand on regarde la terminologie, depuis 20-25 ans, les banques de sang, les banques de sperme, les banques de vulves, hein, ben, la financiarisation n'est pas loin derrière. Hein, la métaphore économique, elle est directement là-dedans. Les nouvelles tendances, ce sont les banques de gènes, c'est-à-dire la cartographie des génomes. À la fois, c'est l'identité génétique des personnes qui sont utilisées, compilées, et là, qui deviennent la source d'un nouveau pouvoir économique, puisque c'est des informations que les chercheurs peuvent utiliser à des fins de développer justement la médecine prédictive. Et là, les gens donnent, participent à des programmes aux États-Unis. Il y en a beaucoup de cartographies, mais la spéculation financière qu'il y a sur ces données, des données informatiques importantes, des données génétiques, évidemment, eux, c'est pas la population qui en bénéficie. Derrière, il y a toute une spéculation financière, il y a toute une commercialisation qui échappe à ceux qui, sans compter les logiques sécuritaires aussi, de contrôle, il y a vraiment des enjeux-là importants sur les banques génétiques.
En tant que socio-anthropologue, quelle source, quelle racine est-ce que vous pouvez voir à cette nouvelle manière de considérer le corps des autres?
Quelle source, quelle racine? Ben, c'est sûr que derrière, justement, il y a une décorporalisation à l'œuvre. Il y a la racine, pour moi, c'est la question cybernétique. Hein, c'est d'avoir ramené l'entièreté des choses à de l'information. Et la conception qu'on a aujourd'hui du vivant, elle est portée par cette métaphore cybernétique, hein, qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale. La cybernétique, c'est vraiment l'information qui est devenue le principe premier à partir duquel on a pensé le monde, pensé les rapports entre les hommes, mais aussi hein, les rapports entre l'homme et la machine. Et donc, très rapidement, hein, à partir des années 40, déjà en 44, Schrödinger, prix Nobel de physique quantique, qui a conceptualisé la biologie, hein, le transfert d'informations dans une perspective négantropique. Hein, la vie devient un processus négantropique. La vie peut se concevoir comme un échange de codes, surtout tout ce qui concerne la génétique. Et toute la biologie moléculaire va intégrer, déjà en 1953 avec Watson et Crick, le dogme central de la biologie moléculaire va reposer justement sur cette conceptualisation de la vie comme processus informationnel. Et déjà, il y a une décorporalisation à l'œuvre. Et il faut voir que la bioéconomie, c'est le résultat à la fois de cette conceptualisation informationnelle du corps, conceptualisation informationnelle des rapports sociaux, conceptualisation informationnelle de l'économie. Finalement, l'économie, c'est une espèce de jeu informationnel sans fin. Donc, le vivant, c'est la nouvelle étape, hein, mais c'était déjà en germe dans ce modèle cybernétique.
Mais tout de même, qui peut avoir intérêt, et quel intérêt, à cet effacement des êtres humains en tant que tels?
Bien, sur la question de l'intérêt, évidemment, il y a tous les enjeux de la financiarisation du vivant qui sont liés à l'économie de la promesse, qui sont liés à l'économie des technosciences. Donc, évidemment, les intérêts, ce sont des intérêts capitalistes. Mais derrière, il y a un ressort imaginaire, un ressort très, très fort qui donne une force de frappe à ce qui est en train de devenir la bioéconomie, qui est celle de la quête d'immortalité par l'homme, par la technoscience. On le voit parce que l'enjeu, justement, l'enjeu majeur, c'est la lutte contre le vieillissement. Le biomédical, actuellement, d'ailleurs, il n'y a pas un pays occidental qui échappe à Alzheimer, qui est présenté comme le mal du siècle. C'est présenté comme le mal du siècle, justement, parce que c'est le symbole le plus visible du vieillissement de la population. Et là, derrière, il y a toute la volonté de lutter contre ce vieillissement et non pas d'essayer d'intégrer socialement ou de réaménager ou de repenser le lien social. Et là, il y a une transformation majeure dans la façon même de penser l'avenir et de penser la société humaine et même l'économie. Puisqu'on n'est pas avec la bioéconomie dans un espèce de discours aussi triomphant que celui porté par la révolution industrielle, avec l'idée du progrès, de l'amélioration complète des conditions d'existence, avec cette logique de développement. Parce que si on lit bien le rapport de l'OCDE à la bioéconomie Horizon 2030, c'est quand même mitigé. Parce que d'abord, ils disent que l'obstacle à ce développement de la bioéconomie, qui par ailleurs est la meilleure solution pour lutter contre la pollution, contre la décroissance, c'est d'abord la résistance des publics, hein, de la résistance, notamment en France, qui est vue comme le contre-exemple sur la résistance aux OGM. Donc, c'est pas cette logique de progrès, de développement à tout craint qui est au cœur de la bioéconomie. C'est l'idée, justement, que on n'essaie plus d'améliorer ou de changer le monde, hein, comme le progrès, mais c'est vraiment la perfectibilité et le progrès sont ramenés à la vie en elle-même. C'est l'être humain lui-même qui doit se changer, qui doit se modifier, notamment pour vivre plus longtemps. Et derrière la bioéconomie, il y a cette volonté d'être en meilleure santé, plus performant et de vivre plus longtemps.
L'être humain, mais pas tous les êtres humains, ou bien si?
C'est-à-dire que c'est un modèle, hein, et c'est un modèle qui est porté par des gens qui sont justement dans une perspective libérale, dans une perspective de... Finalement, c'est de vivre plus longtemps, mais avec l'idéal d'être, d'avoir 30 ans, d'être dans une puissance. C'est le vieillissement sans vieillir.
Oui, mais vous évoquiez tout à l'heure, Céline Lafontaine, ces femmes indiennes dont on utilisait les cellules pour des occidentaux ou des occidentales, etc. Donc, quand je vous demande si c'est pour tous les êtres humains, est-ce qu'il y a une arrière-pensée politique raciste?
Je ne sais pas s'il y a une arrière-pensée, il y a plutôt l'impensée. La bioéconomie repose sur l'impensée. Parce qu'il faut bien voir que quand la Banque mondiale s'inquiète du vieillissement de la population, de quelle population on parle? Je vous rappelle que la plus grande partie des enfants de ce monde sont encore aux prises avec la mortalité infantile, la mortalité maternelle. Donc, évidemment, c'est l'Occident qui est pris dans son propre miroir, là. Et le reste du monde devient une ressource, hein, et le corps humain. Mais en même temps, ce qui est difficile, c'est que du point de vue, par exemple, il y a une exploitation capitaliste claire, par exemple, de la femme indienne qui, pour avoir accès, par exemple, au traitement de fertilité qui va lui assurer à la femme d'avoir un garçon. Hein, donc, dans l'économie, pour elle, c'est de s'assurer une place dans la société. Et donc, les biotechnologies, les technologies de reproduction lui permettent ça. Elle ne peut pas se payer ces traitements-là. Donc, ce que les cliniques font, c'est de dire aux femmes indiennes, on peut vous assurer d'avoir un garçon. En échange, puisque vous ne pouvez pas payer, on va vous prendre quelques ovules de plus. Du point de vue de la femme indienne, qui n'a pas tout à fait la même conceptualisation que la nôtre, bien évidemment, elle monte de statut social. Pour elle, elle a un gain qui n'a rien à voir avec l'argent qu'on va faire à partir, qu'elle ne verra jamais à partir de ses propres ovules. Mais il y a un gain. Donc là, il y a toute une exploitation aussi des conditions de vie, des logiques culturelles qui diffèrent d'un pays à l'autre. Par exemple, en Israël, c'est là où on produit les cellules souches. Pourquoi? Parce que Israël n'a pas une interdiction sur le fœtus qui a lieu en Europe, notamment en France, parce que la tradition juive n'a pas le même rapport à l'embryon que la tradition chrétienne. Donc, il y a tout un contournement des enjeux culturels par une espèce de capitalisme qui, lui, échappe, mais utilise toutes les différences culturelles.
On a le sentiment, finalement, que l'humain disparaît au point qu'on ose à peine se poser la question du rapport des humains aux machines ou des machines aux humains. Céline Lafontaine.
Bien, c'est-à-dire que c'est un des grands thèmes, c'est un des thèmes centraux des nouveaux discours utopistes. Hein. C'est la question du post-humain, du cyborg, qui justement fait de l'humain quelque chose d'obsolète. Hein, le corps humain devient obsolète. C'est très clair aussi dans la bioéconomie, puisque l'enjeu, c'est de régénérer ce corps obsolète. Et donc, l'obsolescence de l'homme, la formule de Gunther Anders, amène nécessairement et nourrit ces utopies de dépassement de l'humain par le post-humain. Notamment, il y a le groupe américain Les Transhumanismes qui milite ouvertement pour cette modification radicale de l'être humain par les technosciences. Et le cœur de ça, c'est vraiment la bioéconomie qui est au cœur de cette volonté de transformer le corps humain en ressources pour nourrir justement le corps humain devenu machine.
On doit à Dorothée Benoît-Brouet et à Bernadette Binceau de Vincent un certain nombre de livres au titre que l'on dirait tirés de la fiction. Par exemple, Alerte Santé ou Le meilleur des nanomondes pour la première. Ou encore Se libérer de la matière ou Vertige des technosciences pour la seconde. Et pourtant, Bernadette Binceau de Vincent est historienne, philosophe, professeure à l'Université Paris 1. Et Dorothée Benoît-Brouet est déléguée générale de Vivagora, une association pour l'engagement des citoyens dans la gouvernance des technologies. Elles signent ensemble un livre remarquable, Fabriquer la vie, aux éditions du Seuil. Fabriquer la vie, ce serait le but de la biologie synthétique ? Qu'est-ce que c'est d'abord que la biologie synthétique ? Vous devriez peut-être nous donner quelques exemples. Dorothée Benoît-Brouet ?
On peut citer deux exemples. Le premier, le plus avancé, qui est d'ailleurs en train d'être développé par Sanofi, c'est la fabrication d'une levure avec des ADN ajoutés, hein, modifiés, donc largement modifiés, pour produire un médicament qui est un anti-paludisme, qui est l'artémisinine. En fait, ce produit aujourd'hui est issu d'une plante, l'artémisinine, et l'idée, c'est d'avoir une production production directement par une levure en milieu confiné, comme on peut produire des médicaments aujourd'hui nombreux, facteurs de croissance et autres. Le deuxième exemple, c'est un exemple dans le domaine des carburants, c'est les cyanobactéries que développe Craventer, qui est un des grands acteurs de la biologie de synthèse, qui est de, là aussi, modifier ces bactéries pour qu'elles qu'elles produisent de l'hydrogène, tout simplement. Et alors là, il y a une sorte de magnifique projet qui est que ces cyanobactéries seraient à la fois capables de produire ce gaz à valeur de carburant, mais aussi elles absorberaient le gaz carbonique, donc ça permettrait d'avoir une empreinte carbone diminuée, et en même temps, elles utiliseraient l'eau salée, elles permettraient de dessaler l'eau. Donc il y a une sorte de projet avec trois intérêts concomitants qui est en train d'être développé, preuve de concept et preuve de développement par Craventer et ses équipes.
Quasiment la potion magique. Bernadette Binceau de Vincent ?
Oui, il y a aussi des recherches qui sont plus de l'ordre de la fiction. Dans le courant de la biologie de synthèse, en particulier la synthèse d'ADN qui ne serait plus justement des ADN, c'est-à-dire des acides nucléiques avec plusieurs paires de bases, 6 paires de bases, on a calculé qu'on pourrait aller peut-être jusqu'à 12. L'idée étant que la vie aurait pu fabriquer d'autres acides nucléiques et donc pourquoi pas. Ce qui nous a frappé dans la préparation de cet ouvrage, c'est la diversité des courants qu'il y a dans la biologie de synthèse. C'est-à-dire qu'il y a des gens de toutes disciplines, beaucoup de bioinformaticiens, des chimistes de synthèse, des ingénieurs civils même, embarqués là-dedans. Et cette grande diversité fait qu'il y a toutes sortes de courants et d'agendas de recherche sous l'ombrelle biologie de synthèse. Et on a voulu montrer vraiment cette diversité dans l'ouvrage, en montrant en même temps que s'il y a des points communs, c'est l'idée qu'il faut vraiment faire du design du vivant, que la biologie devienne technologique et que c'est en fabriquant du vivant qu'on espère peut-être mieux le comprendre ou résoudre certains problèmes.
Design du vivant, le terme français, c'est dessin. Faire à dessin. Oui. Et de fait, vous rappelez que cette biologie de synthèse, qui est toute jeune, a d'abord pensé s'appeler biologie intentionnelle. C'était au tout début du XXIe siècle.
Oui.
Bernadette,
oui, c'était l'idée de quelques-uns des promoteurs aux États-Unis, en tout cas de cette nouvelle biologie, c'était de la baptiser biologie intentionnelle. Et quand Rob Carlson a proposé lors d'un congrès cette étiquette, il y a eu une levée de boucliers des biologistes présents en disant « Mais est-ce que ça veut dire que notre biologie jusqu'ici était totalement inintentionnelle ?»
Ils étaient vexés.
Ils étaient vexés. Et donc, ils se sont finalement ralliés à l'étiquette biologie synthetic biology, qui évoque de manière très forte l'analogie avec la chimie de synthèse au XIXe siècle, qui a, d'une certaine manière, renouvelé profondément la chimie.
Et de fait, vous commencez par rappeler les ancêtres, les différents courants qui ont présidé, ou en tout cas tracer le chemin de cette nouvelle science. Dorothée Benoît-Brouet, ils sont nombreux.
Ce qui est intéressant, c'est effectivement, il y a cet arrière-plan de la chimie de synthèse, de l'effort du XIXe siècle, mais on est ici dans la prolongation directe de toute la biologie d'après-guerre, avec d'une part la découverte du support de l'hérédité, donc, et la manipulation de ce support de l'hérédité de la molécule d'ADN, qui a donné la biologie moléculaire, le génie génétique, c'est-à-dire cette ingénierie qui permet d'insérer des gènes, de greffer des gènes qui ont donné les OGM. Et puis, on est avec une convergence ici de cet effort de réductionniste, je dirais, de la biologie, avec l'informatique et même le monde de l'électronique. On va un peu développer cela. L'informatique, c'est toute la démarche de la cybernétique, de la programmation. Et on a une sorte d'idée qu'avec les outils que nous avons aujourd'hui, on peut programmer ce vivant avec des supports qu'on choisit. Et on est bien là dans, effectivement, faire du vivant sur mesure, avec l'idée non seulement que l'on va ajouter des briques ou des cassettes d'informations, mais qu'on va même totalement refabriquer, synthétiser de toutes pièces un ADN, tout le patrimoine héréditaire d'un organisme, pour lui faire faire ce qui nous arrange. Et c'est là qu'il y a une difficulté, et peut-être la question sur l'intentionnalité est essentielle. Paul Valéry avait très bien dit que, effectivement, si la vie avait un but, ce n'est plus la vie. Et c'est là qu'on tombe sur peut-être le cœur de notre intention dans ce livre, c'est de poser cette question du choc des cultures entre la culture d'ingénieur qui construit des cahiers des charges, une manière de faire une machine, qui arrive dans un domaine qui est celui du vivant, où rien n'est programmable réellement, puisque en permanence le vivant est un système poreux avec l'environnement, avec des allumages de gènes qui dépendent complètement de ce qui se passe avec l'environnement. Donc est-ce que réellement cette biologie est faisable ? C'est vraiment un point très radical.
Les chimistes ne sont pas les seuls à s'être intéressés à cette question. Les philosophes, Descartes, Kant.
Oui, Descartes, c'était la théorie des animaux-machines au XVIIe siècle. Et pour Descartes, les êtres vivants étaient comme des machines avec des rouages, des pompes, des leviers, des poulies, etc. Et beaucoup d'automates qui ont été fabriqués au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle visaient justement à mettre un peu à l'épreuve la théorie des animaux-machines, à montrer que il y a la fameuse très belle démonstration du canard de Vaucanson, le canard déféquant. Le canard qui défèque, et c'était un leurre, bien entendu. On mettait quelque chose à l'entrée et on faisait ressortir autre chose à la sortie. Mais le but était justement d'illustrer et en même temps de critiquer ou de mettre en doute la théorie de Descartes.
En tout cas, ce qu'on entend dans ce que vous nous racontez là, ce récit des origines, c'est que ces questions étaient débattues, qu'elles étaient, elles servaient en quelque sorte de balles que se renvoyaient les philosophes, les scientifiques, les chercheurs, les amateurs d'automates. Enfin, on sent que véritablement, c'était des questions qui étaient partagées par la société. Ce qui est curieux, c'est que au-delà de cette sorte de glissade que vous nous avez décrite, Dorothée Benoît-Brouet, à travers le XXe siècle, sur la façon dont on a d'abord décrypté un code génétique, puis on a voulu le manipuler, puis aujourd'hui on veut carrément le fabriquer, c'est que tout ça se passe dans un milieu, pour le coup, extrêmement confiné. Ces questions-là n'arrivent pas dans le public.
Oui, on peut même s'interroger sur le terme même de biologie de synthèse, parce qu'effectivement, il est très hermétique. Est-ce que, à ce stade, on peut considérer que on est dans le droit, la droite continuité de la production d'organismes génétiquement modifiés, et dès lors, il faudrait parler d'OGM? Et effectivement, si cette dynamique scientifique et technique vise à produire des OGM, tout d'un coup, dans l'espace public, je pense qu'il y aurait un peu plus
une résonance
d'écho. Ce point-là est justement un point de crispation extrêmement fort, notamment en France. Sur peut-on, dans le débat public, nommer ces objets issus de cette démarche OGM, strictement
OGF, organisme génétiquement fabriqué.
Voilà, strictement, il faudrait les appeler OGF, effectivement. C'est à la limite non seulement de la modification, mais de la fabrication. Donc on est dans une modification, enfin, c'est encore plus clairement des produits d'ingénierie, quoi. Alors, donc ça fait tension parce que évidemment on est dans un arrière-plan.
Ça fait tension parce qu'il y a une envie de garder les choses un peu discrètes.
Très clairement, le terme, si nous sentons tellement fortement la réserve concernant l'appellation OGM ou OGF, c'est que les uns et les autres, les parties prenantes, les acteurs de ce champ, ont extrêmement peur des amalgames. Et pourtant, pour nous, et là c'est l'enjeu, je dirais, de l'association Vivagora, c'est un point clé que de travailler en amont, au stade où est la biologie de synthèse, sur la présentation de ce projet. C'est même extrêmement incontournable, légitime que les citoyens soient informés sur ce qui se prépare, d'autant plus si ça ressemble à une démarche qui a à voir avec celle des OGM, non seulement en termes d'objets, mais en termes de questions de risque, mais en termes de questions de cohabitation de culture, et surtout encore en termes de quel type d'économie ça fabrique, et notamment comment va-t-on régler la question des brevets sur le vivant.
Vous faites remarquer que la biologie de synthèse, c'est aussi une science qui existe parce qu'elle peut aujourd'hui exister. C'est-à-dire que les outils qui permettent de penser ou d'essayer de faire de la biologie de synthèse existent aujourd'hui. Quels sont-ils, Dorothée Benoît-Brouet?
C'est la synthèse de ces morceaux d'ADN, toutes ces séquences génétiques qui peut être faites à très bas coût maintenant, à très, très rapidement aussi.
La chute des prix depuis 2004 en particulier est absolument colossale. C'est un héritage du programme Génome Humain. Et en particulier depuis 2004, la capacité pour séquencer des génomes et du coup pour les synthétiser aussi, est quelque chose qui est exponentiel. Et vous avez raison, la biologie de synthèse est poussée. La force motrice, c'est vraiment les instruments. Ces grandes plateformes technologiques qui ont été mises en place et qui sont sans cesse renouvelées, réactualisées, permettent d'envisager qu'on pourra fabriquer des séquences et stocker des bibliothèques de séquences.
En vous écoutant, on a vu passer des techniques qui, en mûrissant, sont devenues de plus en plus simples et de plus en plus abordables. On a vu une convergence de différents secteurs, de différentes voies de recherche qui, toutes, sont en train d'aller vers cette biologie de synthèse. Mais qui sont les acteurs qui aujourd'hui font cette recherche? On a compris que ce sont des ingénieurs, on a compris que ce sont des scientifiques, peut-être pas tant que ça des philosophes d'ailleurs, on reviendra sur cette question. Vous êtes assez rare à vous intéresser à ces questions-là du côté de la philosophie. Quand je demande qui sont les acteurs, c'est que au-delà de cette communauté strictement scientifique, on s'aperçoit qu'il y a des gouvernements, on s'aperçoit qu'il y a des entreprises.
Bien sûr, oui, des grands groupes.
Dorothée Benoît-Brouet.
On est dans la continuité, là aussi, de ce qui s'est passé pour les semences transgéniques, dans le rapprochement entre les grands de la chimie et les porteurs de variétés végétales. Ici, on a un cran supplémentaire qui mobilise les gens de la pétrochimie, les sucriers, et tout le secteur de l'informatique. Et réellement, les fonds viennent à la fois de tous les grands pétroliers, BP, Total, etc., mais aussi donc les grands sucriers, l'informatique. Ça veut dire que des personnalités comme Craig Venter, qui est un des leaders dans ce champ-là, récoltent des fonds de Microsoft, de British Petroleum ou autres.
Des fonds qui sont extrêmement importants.
Des fonds très importants.
Puisque même si les technologies aujourd'hui ont avancé et sont moins coûteuses, il n'empêche que c'est une branche de recherche qui coûte extrêmement cher.
Oui, mais la stratégie, c'est qu'on est là dans l'innovation pour les énergies de demain. Donc évidemment, il y a non seulement les grandes entreprises, mais aussi les départements industriels, mais les départements de la défense américains qui voient bien que c'est incontournable.
Incontournable, dites-vous ?
Incontournable du point de vue de l'innovation. C'est-à-dire que au stade où nous sommes, avec les défis tels qu'ils sont posés, de énergétique, alimentaire, la question est toujours posée, et c'est un point de discussion, en termes de dopage. Il va falloir doper le vivant.
Il va falloir donc doper le vivant pour répondre aux besoins alimentaires, aux besoins énergétiques de demain.
Oui, c'est la stratégie, très clairement, qui est portée à la fois au niveau international, hein, que ce soit en Europe, au Japon ou aux États-Unis. Est-ce que c'est la seule et est-ce que c'est la raisonnable et est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce qu'il y a l'adhésion dans les différentes cultures aussi, de par la planète, pour une telle perspective, dans la mesure où pourquoi ce vivant serait-il si imparfait tel qu'il est aujourd'hui?
De fait, cette question du dopage du vivant est posée par ceux-là même qui ont causé un certain nombre de dégradations à la planète, des dégradations qui sont de plus en plus visibles à l'œil nu et
bien
de
sûr,
plus en plus contestées.
Bien sûr. Ce livre, Fabriquer la vie, vise beaucoup, bien davantage, à poser de manière assez forte l'alternative. Sommes-nous bien raisonnables de considérer que la meilleure façon d'envisager l'innovation aujourd'hui par rapport à la richesse du vivant, c'est de forcer du point de vue du programme, de croire que le vivant va pouvoir être assigné à des missions très spécifiques en obéissant strictement sans avoir de débordement.
Bernadette Massot-Vincent, vous vouliez
oui, ajouter quelque chose? Oui, je crois que l'objectif du livre, c'est effectivement de mettre en question notre rapport au vivant. J'entends par là que le vivant a fabriqué au cours de milliards d'années des organismes extrêmement performants. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'une partie de l'innovation technologique aujourd'hui passe par l'imitation du vivant, ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire essayer de tirer des leçons de la manière dont le vivant, au cours de l'évolution, s'y est pris pour fabriquer des machines qui, ma foi, sont robustes et très résistantes. Or, il nous semble que l'option prise par la biologie de synthèse va dans une direction radicalement opposée, qui est d'essayer de soumettre le vivant à nos impératifs techniques. C'est-à-dire ce que nous avons appelé le technomimétisme, c'est-à-dire de non pas simplement de domestiquer le vivant, ça on l'a fait depuis longtemps, mais carrément de le refaçonner, de le redesigner, de le réingénier, en français on n'a pas cette expression, pour qu'il soit soumis à nos critères de standardisation, d'uniformisation, etc., etc. Et c'est ça qui ne nous paraît pas raisonnable, c'est ça qui ne nous paraît pas crédible, c'est ça qui ne nous paraît pas souhaitable non plus, dans la mesure où ils auront de toute façon à vivre ensemble avec les vivants, les micro-organismes tels qu'ils existent. C'est pourquoi la dernière phrase de notre livre, c'est
Les microbes ricanent. Mais on n'est pas encore à la fin du livre, donc on va revenir légèrement en arrière. Technomimétisme, c'est un terme que vous avez forgé, donc, et qui me paraît tout à fait intéressant. On ne considère plus les machines comme des humains, mais on considère les humains, ou la, pas les humains d'ailleurs, la,
le vivant comme une machine.
Comme une machine. Oui.
Et je pense que c'était la tendance cartésienne. C'est pour ça que d'une certaine façon, la biologie de synthèse est l'héritière de l'idéal cartésien de maîtrise et possession de la nature, et en l'occurrence du vivant dans la nature. Et l'image du Lego, des briques, des biobriques, qui est l'un des courants les plus spectaculaires aujourd'hui de la biologie de synthèse, suppose que les briques élémentaires du vivant seraient comme des pièces de Lego interchangeables, standardisables, et qu'on pourrait les agencer, les assembler exactement comme on construit des agencements de Lego.
La question qui est vraiment très importante, c'est pourquoi est-ce que notre monde vivant est exploité sous un angle tout à fait parcellaire, avec un parti pris d'une valeur donnée aux briques élémentaires, comme si, en les remettant ensemble, on allait devenir extrêmement puissant et à avoir des performances capables de répondre aux défis actuels. Et c'est là qu'on peut tout à fait bousculer cette approche-là, cette promesse, en disant il peut y avoir une approche globale du vivant, considérée, on l'a très bien vu avec l'agriculture alternative aujourd'hui, que si on fait cohabiter plusieurs espèces, eh bien, il y a des rendements augmentés. Et donc l'augmentation peut passer plutôt par des communautés, c'est-à-dire augmenter un rendement par un travail en commun, plutôt que le dopage d'un individu isolé, d'un micro-organisme.
Et surtout le confinement, parce que ces individus-là, qui ont été réécrits d'une certaine manière, parce qu'il s'agit de réécrire l'alphabet du vivant, eh bien ces individus-là, il n'est question que de les confiner. Le confinement devient aujourd'hui le maître mot de l'innovation technologique, ce qui prouve bien qu'il y a un problème de...
Confinement parce que, justement, il n'y a pas de cohabitation. Pardon, je vous ai interrompu, vous alliez le dire, en fait. Il n'y a pas de cohabitation possible avec le monde du vivant tel que nous le connaissons.
Il faut éviter les contaminations.
Ces formes radicalement nouvelles qui sont en train d'être créées, personne ne sait comment elles interagiraient.
Voilà, un des courants de la biologie de synthèse, je précise bien, ça n'est qu'un courant, vise précisément à répondre au problème majeur qui a été pointé par les organismes génétiquement modifiés, les OGM, qui est que ça contamine les cultures alentour et donc ça, petit à petit, ça élimine la biodiversité. Et donc l'idée de faire des xéno-ADN, c'est-à-dire des ADN totalement différents, des alphabets totalement différents, avec toute la machine cellulaire qui ira avec, c'est d'interdire ces contaminations et d'avoir une sorte de monde parallèle. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup de ces recherches sont financées par la NASA, dans le cadre de l'astrobiologie, puisque c'est quasiment une biologie pour d'autres planètes.
Fabriquer la vie aux éditions du Seuil, c'est donc le livre que vous co-signez, Dorothée Benoît Brouet et Bernadette Massot de Vincent. Merci d'être venue nous en parler ce matin. Quant à Céline Lafontaine, on trouvera énormément de ses articles et de ses publications sur Internet. Notre site, vous le connaissez, c'est franceculture.fr. Vous y retrouverez cette bibliographie, des liens, ainsi que notre revue de web hebdomadaire. Et vous pourrez télécharger cette émission pendant une semaine. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, réalisation, Vincent Abouchard. Bonne semaine à tous. We were just half friends, occupied in the light, sometimes bright and beautiful.
Listen to your story. I smile when you take a breath, but the dark is working overtime. Can you just see me mad? Why are we thinking here, pretending we're so close? Think we're something special. Well, I'm giving up the ghost. Listen to your story. I smile when you take a breath, but the dark.